entre nous soit dit.
Deuxième épisode, le livre.
Ce travail de documentaire audio s'intéresse à la genèse d'un événement produit par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne le 14 juillet 2023. Il s'agit d'un concert qui rassemble sur scène 50 choristes avec 8 instrumentistes et chanteurs solistes pour interpréter une musique et un texte composés pour l'occasion. Il est construit à partir d'un livre intitulé « Entre nous soit dit, petit récit pour un art de la parole » écrit par Jean-Pierre Renaud et édité par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, parce qu'il pose la même question qui rassemble cette fédération d'associations bourguignonnes, active pour certaines depuis les années 1960. Comment la transmission orale permet-elle de faire tradition et société ?
Faire société dans des endroits où parfois ça marche plus. Hein.
La création musicale « Entre nous soit dit » traverse toute la consistance de cette interrogation pour faire reconnaître l'art de la parole dans l'espace et dans le corps, dans une actualité vécue au présent.
Utilisons ça, en fait, pour faire quelque chose de notre vie à nous, quoi.
Dans ce deuxième épisode, le livre, on découvre comment est née l'idée du concert du 14 juillet 2023 autour du projet de la Fabrique sociale orale de la MPO.
C'était vraiment une espèce de miroir à poser en face de l'évolution de la Maison du patrimoine oral.
L'auteur du texte qui donne son nom au spectacle, c'est Jean-Pierre Renaud. Homme de théâtre, cinéaste et conteur, il explique comment, à l'occasion de l'enquête lancée par Caroline Daroux, il questionna son expérience de la parole pour aboutir à l'écriture du livre.
C'était de la parole comme presque objet ethnologique.
Avec Michel Matisse, sa compagne, et suite à sa rencontre avec Justin Bonnet, il décide de prolonger l'expérience.
Il fallait que ce livre qui parle d'oralité retourne à l'oral. Et deux, qu'on avait quelqu'un qui pouvait le faire de manière ludique, généreuse et inattendue, c'est Justin.
Le projet rencontre l'adhésion immédiate de la MPO. Justin Bonnet est renommé comme chef de chœur et expert du chantrade, et il anime à Joigny, dans l'Yonne, plusieurs groupes de chants. À l'été 2021, justement, il y crée un nouvel ensemble, la ZOAV. C'est l'acronyme pour « Zone où apprendre à vivre ensemble ». Elle sera son appui principal dans le travail de création et de coordination du projet Entre nous soit dit.
Bon, ça c'est un peu mon histoire à moi, et c'est un peu l'histoire de la ZOAV, c'est bien qu'on se le dise maintenant, qui a quand même été un groupe qui s'est constitué à l'occasion de la mise en place du pass sanitaire.
Sans surprise, la crise sanitaire de 2020 imprime sa marque indélébile sur cette expérience de création et lui confère un caractère véritablement actuel. Au départ de l'aventure, à tous les niveaux de la prise de décision, c'est une forme de résistance politique qui détermine les différents acteurs à s'y impliquer, parce qu'elle les libère d'autres engagements et leur dégage de la disponibilité, mais aussi parce qu'elle les rassemble comme un signe de reconnaissance. Plus encore, cette commune résistance fait ressortir l'urgence fondamentale de questionner le langage. Comment pouvons-nous compter sur nos dires pour faire ou défaire la société ?
Disons-le en préambule, être pareil, ça n'existe pas. Donc rester ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est être capable de construire des petits espaces publics de plus en plus publics, au départ peut-être privés, peut-être infrapolitiques, mais qui ont vocation à se renforcer, à devenir plus nombreux, etc. Et donc, des petits espaces publics où on ait la possibilité de faire les choses autrement, de dire les choses autrement, de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'espace public dominant et qu'on peut le faire valoir. Et c'est faire exister l'alternative, en fait.
Caroline, directrice de la Maison du patrimoine oral.
Jean-Pierre, ça fait très longtemps qu'il travaille avec nous. Jean-Pierre, il est un des membres fondateurs du mouvement associatif qui s'est structuré en Maison du patrimoine oral de Bourgogne en 2008. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'on travaille avec Jean-Pierre sur d'autres projets. En 2019, moi, j'ai mené un travail pour que notre structure devienne un ethnopôle. C'est un travail... je me disais, à cette époque-là, il manque en fait que tout le monde ait visibilité des nouveaux enjeux, peut-être, de notre mouvement associatif. Il manque peut-être de mettre du sens et des mots sur ce qu'on fait, parce qu'on faisait des choses, mais c'était par héritage qu'on faisait les choses, quoi. Donc en 2018-2019, j'ai un peu lancé un grand chantier scientifique collectif, où j'ai demandé aux gens, ok, ça veut dire quoi pour vous oralité? Est-ce qu'on peut faire des ateliers? Est-ce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait? Et on a essayé de fabriquer comme ça avec. Il y a eu une dizaine d'ateliers avec à la fois des administrateurs, des bénévoles qui s'intéressent à des musiciens qui sont là d'ailleurs, etc. Ben, beaucoup de travail réflexif comme ça qui a abouti à un projet scientifique et culturel qu'on a proposé au ministère de la Culture, qui s'appelle la Fabrique sociale orale. Et c'est un projet à la fois politique, culturel, scientifique et artistique. Voilà. Et du coup, ce projet, il a été labellisé par le ministère de la Culture pour qu'on puisse devenir ethnopôle. C'est-à-dire qu'on soit reconnu par le ministère de la Culture comme un endroit capable de produire de la recherche scientifique par l'action culturelle, notamment, et capable de porter une question de recherche unique, que d'autres ne portent pas, avec ses méthodes, etc., etc. Et à cette époque-là, Jean-Pierre était dans la réflexion, avait participé à de nombreux... Voilà, et ça l'avait inspiré. Et il avait commencé à écrire sur ce sujet. Je me rappelle que le premier titre du livre, c'était « Les arts de l'oralité ». Mais les arts en un seul mot, les arts de l'oralité. Bon, il avait, ça l'avait inspiré, quoi. Puis à cette époque-là, on avait beaucoup parlé de Guy Debord, du situationnisme, etc. Parce que c'est des éléments fondateurs, hein. Le mouvement Mao, l'agit-prop, ça, c'est des mouvements fondateurs de la Maison du patrimoine oral, hein. Donc j'avais besoin qu'on repose toutes ces choses qui n'étaient plus dites pour que tout le monde recomprenne bien où on se situait, quoi. Donc il a commencé comme ça, il a écrit des textes, deuxième texte, trois textes, et puis petit à petit, ça a commencé à se structurer en livre en fait. Et puis il a proposé aux éditions, parce qu'on a des éditions à la MPO qui ont vocation à éditer ce qui n'est pas éditable ou qui ne sera pas édité par des maisons d'édition normales, quoi, enfin lambda. C'est des éditions plutôt en patois, il n'y a pas de maison d'édition qui est positionnée là-dessus, et des éditions autour des sujets de l'oralité tels qu'on les pratique nous. Et donc là, ben, la proposition de Jean-Pierre rentrait dans une des collections. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler à cet ouvrage. Ça a pris plusieurs années, hein. Du coup, ça, voilà, jusqu'à 2021. Et c'est comme ça qu'on a fini par éditer ce livre qui ne s'appelait pas comme ça au début et qui s'appelle maintenant « Entre nous soit dit », voilà, qui est sorti en 2021. 2020 ou 2021, j'arrive plus à savoir parce que cette période était tellement trouble que l'année est passée, c'est 2020 ou 2021.
Jean-Pierre, auteur et choriste.
Caroline a invité des gens à venir à une performance parlée.
Je m'appelle Michel.
Co-metteuse en scène et choriste.
La première fois que Caroline est venue à la maison pour que Jean-Pierre raconte son expérience d'homme de théâtre, de conteur, d'auteur, de réalisateur, etc., Justin était présent d'ailleurs à ce moment-là, puis il y avait d'autres personnes, des gens qui racontent, des gens qui écrivent, des gens qui écoutent.
Moi, elle m'avait dit, ben voilà, parle de ton itinéraire, de voilà, de... Et moi, bien sûr, je m'interrogeais en étant à la Maison du Patrimoine Rural, puis c'était un peu avant la création de la structure de l'ethnopole, tu vois. C'était de la parole comme presque objet ethnologique, pas que là, simplement la parole, qu'est-ce que c'est qui nous constitue comme être parlant, quoi.
Parce que c'est là que ça a commencé notre histoire.
Oui, exact. Tu étais déjà en train d'écrire le bouquin ?
Ah ben non. J'avais écrit les 10 premières pages.
Oui, donc tu avais déjà quand même une idée de ce livre.
Ah ben, oui, qu'il fallait qu'on retourne le gant à la Maison du Patrimoine Oral, qu'on s'interroge sur qu'est-ce que ça voulait dire... parler, mais bon, moi ça me venait de la psychanalyse, ça venait d'autres champs.
Puis voilà, bon, j'ai raconté des bribes comme ça de différentes mises en bouche, et c'est devenu ensuite des esquisses de texte, c'est-à-dire que ça m'a piqué, ça m'a occupé, quoi, c'est-à-dire. Parce que, bon, qu'est-ce que c'est que la pulsion de la parole, par exemple, toi, qu'est-ce que c'est que... quand tu te mets à t'interroger... Moi, je m'étais arrêté, j'ai raconté comment je me suis deux fois arrêté de raconter des histoires à différents moments donnés. Alors, dans le travail d'acteur, comment je suis allé vers le conte, en cassant le quatrième mur, etc. Et puis, à un moment donné, comment j'ai arrêté... Bon, j'ai reçu une transmission de contes de Maurice Digoin, tu vois, avec d'autres conteurs aussi du coin. Et puis, il y a eu un peu comme chez les Griots, si tu veux, il y a eu une transmission ici. Et puis, j'ai arrêté après. Ce texte-là, par fragments, comme ça, c'était vraiment, si tu veux, une espèce de miroir à poser en face de l'évolution de la Maison du Patrimoine Oral. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas aussi assez d'interrogations. Bon, il y a des stages de chant, il y a des stages de conte, tu vois, sur le répertoire trad. Et puis, c'est bon, au bout d'un moment donné, t'as pas trop d'interrogations sur qu'est-ce que c'est que ce travail-là. Puis de recherche, même, de travail de recherche. J'étais dans l'expérience, quand je te parle de Maurice Digoin, tout ça, on était dans l'expérience avec une revue qui s'appelait La Poulée, si tu veux, qui était sur le Morvan, et dans tous ces moments-là où on faisait des veillées ici, tu vois, bon, et c'est de là que, par exemple, Rémi Yomo s'est mis sur... Bon, on voulait faire un centre culturel ici, voilà, le projet de Maison du Patrimoine Oral s'est constitué, puis ça a été créé il y a une douzaine d'années maintenant. Et puis voilà, donc j'étais avant, tu vois, la création de la Maison du Patrimoine Oral, dans ceux qui avaient fait tous les travaux de collectage, de travail sur le conte, déjà sur la parole, d'une certaine manière. Deleuze, il a un beau mot quand il parle pas de territoire, autre, comme la tour et compagnie, mais il parle d'implantation. C'est une maison implantée, là, quoi, tu vois, sur ce territoire-là. Et donc, c'est une maison assez, dans le paysage culturel français, assez atypique, quoi, atypique, on pourrait dire, en termes sociologiques. Donc, moi, je participe comme ça, de loin en loin, sur un projet ici ou un projet là. Et puis, c'est comme ça que moi, ce projet-là, il s'est monté, si tu veux. On a dit, ben voilà, on va faire un grand chœur.
Vincent, chanteur soliste et cornemuse.
Alors c'est avant tout une histoire de rencontre, je devrais dire. Parce que Jean-Pierre, il a fait partie de... Moi je me rappelle quand je l'ai rencontré, c'était en 1994. C'était pour un festival qui s'appelait Les Musiques de la Langue. Et Jean-Pierre, il avait fait partie de l'équipe qui avait monté ce festival. Et moi ça m'avait bluffé parce que les gens d'Aligny étaient venus, quoi. Alors que c'est quand même bien intello, bien... Ouais. Et je m'étais dit, Ouais, chapeau bas quand même. Bravo quoi. Donc Jean-Pierre, j'ai toujours suivi de loin, de près, de loin quand même, un petit peu tout son boulot, voilà. Et puis il y a des choses qui m'ont toujours intéressé, plus ou moins, mais j'aimais bien le côté, je sais qu'il était en lien avec Jacques Lacarrière, qui est un auteur que j'apprécie, parce que c'est quelqu'un qui aime bien la Grèce, qui aime bien les voyages autour de la Méditerranée, voilà quoi. Et dans son livre là, ça parle aussi de ça, quoi. Donc moi, ce côté voyage, c'est quelque chose qui m'intéresse bien, quoi.
Je vais reparler de la crise sanitaire parce que je pense que c'est absolument essentiel dans cette histoire. Quand arrive la crise sanitaire, on a un empêchement d'être en groupe, un empêchement d'être ensemble. Et puis du coup, il y a des espaces culturels, on va dire, quotidiens qui se ferment, tu vois, qui n'existent plus. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, deux ans... ça commence on commence à vraiment sentir que les gens en souffrent, tu vois. Nous, on le sentait vraiment à la maison, hein. Il y a des mamies qui venaient nous demander de venir boire le café chez nous, parce qu'elles en avaient marre d'être seules, quoi. Il y avait vraiment des gens seuls, ça n'allait pas. Et quand on est sorti de la crise sanitaire, en discutant, notamment par exemple notre section langue de Bourgogne, là, ils ont des ateliers incroyables. Hein. Ils rassemblaient 90 personnes, c'était des gros ateliers. Et là, c'était très compliqué au moment de la crise sanitaire. C'était vraiment compliqué parce que, il y avait eu un cluster dans un atelier. Ils avaient respecté toutes les règles, hein. Mais il y avait eu des gens très malades, une personne qui était même décédée. Enfin, ça avait vraiment démoralisé tout le monde. Les gens étaient vraiment en déprime, quoi. C'était dur. Et puis au niveau du chant, c'était pareil. Justin racontait aussi, lui aussi, il a un cœur. Donc il racontait à quel point c'était difficile, qu'il ne pouvait pas se rassembler. Enfin bon, il y avait vraiment du désespoir, en fait, quelque part. Et je pense qu'on avait tous besoin, à l'issue de ça, de refabriquer de l'espoir. C'est clair. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, en plein moment de cette crise sanitaire, on a publié le livre de Jean-Pierre. Et ce livre, il a été publié à un moment où tout était fermé, quoi. Donc il y avait... les gens sortaient plus dans les librairies, il n'y avait plus d'événements, c'était quand même hyper restreint en termes de diffusion. Et du coup, bon, on a essayé de faire un film, justement, de présentation, de faire des actions en ligne, mais ça, voilà, ça remplace pas la réalité d'une sortie publique, quoi. Et le livre a rencontré très peu de public à ce moment-là. Donc, sorti de la crise sanitaire, étant donné que Justin avait adoré ce livre, qu'ils avaient pris contact tous les deux avec Jean-Pierre, qu'ils étaient très enthousiastes, que Michel avait dit « mais ce serait bien qu'on essaye quelque chose ». Eh bien, quand cette proposition-là est arrivée, eh ben, moi, je me suis dit simplement, je pense, c'est instinctif, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être de ça qu'on a besoin à ce moment-là. C'est de se projeter dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, ensemble, et puis qu'il soit, qui amène de l'utopie aussi, enfin de l'espoir, quoi, tout simplement. C'était vraiment ça l'impulsion initiale. Je pense pas me tromper aussi pour les autres, faudrait voir avec eux, mais il y avait vraiment cette impulsion de départ. Et après, comme toute impulsion, utopiste, il faut la rendre réalisable, quoi. Et donc c'est là qu'on a commencé à essayer de mettre un peu sur le papier comment on allait s'y prendre, ce qu'on allait faire, etc. Et le fait qu'on ne l'avait jamais fait. Autant Justin, il me disait au téléphone, « Moi, tu sais, j'ai jamais été compositeur, là, c'est un peu ça qu'on me demande, quand même. Je ne sais pas si je vais y arriver. » Nous, on n'avait jamais organisé ce genre de truc, quoi. Je veux dire, et on n'avait jamais produit ce genre de spectacle, tu vois. Enfin, nous, on ne savait pas faire, voilà. Donc, c'était un peu... C'était pas rien, quoi. Et puis, Jean-Pierre avait jamais fabriqué un livre de chant à partir d'un livre qu'il avait... Enfin, tout était neuf pour tout le monde, en fait, quelque part. Et c'est ça qui était réjouissant, je pense, aussi. Donc, le démarrage, c'est comme ça. Voilà. Puis, pour moi, ça a vraiment commencé par une réunion entre nous quatre, où on s'est dit les choses comme ça, à peu près, et où on avait besoin de... de refabriquer un peu quelque chose, quoi.
Quand le Covid est arrivé, j'ai eu un vrai moment d'angoisse, constater que le spectacle vivant était vraiment mis sous le boisseau et qu'il y a plein de gens que ça dérangeait pas du tout, y compris des artistes, dans leur studio, dans leur chambrette, cette angoisse, j'ai très vite eu la chance de pouvoir trouver un exutoire, puisqu'il y avait d'une part le livre de Jean-Pierre, et d'autre part le fait, la rencontre qu'on avait faite avec Justin en 2018, je crois. Un matin, je me suis réveillée en me disant que, un, il fallait que ce livre qui parle d'oralité retourne à l'oral, et deux, que on avait quelqu'un qui pouvait le faire de manière ludique, généreuse et inattendue, c'est Justin. Ce qui m'importait aussi, justement par rapport à cette histoire du Covid, c'est que ça devienne une aventure collective. J'avais ces trois critères, je dirais, de sens à l'esprit au moment de ce que Justin appelle une intuition, qui était une intuition quand même un peu élaborée, parce que c'est comme ça que je me réveille. Et voilà, donc j'en ai parlé à Jean-Pierre, qui a trouvé ça tout à fait évident. Justin, ça n'a pas eu l'air de... il était partant. Il a été partant. Après, fallait trouver le moyen de le faire avec le support de la MPO qui était éditeur du livre. Donc, ça a été le premier interlocuteur. Et voilà, quoi. Alors, évidemment, entre ce que j'imaginais et la manière dont ça s'est élaboré, il y a un processus d'adaptation qui s'est fait. D'une part, parce que quand j'ai dit il faut qu'il y ait plusieurs chœurs, je ne savais pas du tout, à part le chœur de Joigny, dont Justin nous avait parlé. Après, je ne savais pas ce qui existait comme chœur. Contrairement au territoire de la Seine-Saint-Denis, que je connais très bien, je ne pouvais pas dire aller à tel et tel et tel endroit avec telle et telle et telle personne. Donc à partir de là, pour moi, ça ne pouvait rester qu'à l'état d'idée.
Marie, choriste.
C'est un projet qu'on porte depuis longtemps à la Zouave, parce que finalement, je disais qu'on a été créé en janvier 2022, mais on a commencé à travailler sur Entre nous soit dit en septembre 2021.
Quand on a recréé le groupe La Zouave, c'est juste au moment où il a lancé le projet Entre nous soit dit, donc on est né en même temps que le projet.
Suite à des questions politiques, politiques au sens large. Je veux pas dire que... On n'est pas des gens super révolutionnaires, quoi. C'est pas ça, mais c'est... En fait, on est là et on se dit, on se questionne en fait finalement sur les choses qui se passent autour de nous et et on se pose des questions. Ouais, c'est juste ça, quoi. On n'est pas toujours d'accord. On essaye de le dire.
Aline, chef de chœur et violoniste.
Comme ça, d'expliquer pourquoi le chœur, pourquoi la Zouave, ça a fait ça et pourquoi et l'engagement politique qu'il y avait derrière tout ça et que du coup. Entre nous soit dit, les a aidés à ça. Moi, j'ai trouvé ça trop bien parce que, en fait, pour le coup, ça a vraiment résonné avec ce qui s'est passé à la Bussière, pour le coup, chez mon père. C'est-à-dire que c'est un des rares endroits où c'était possible, pareil, de chanter parce que il n'y avait pas de passe et puis que t'inquiète pas que tous ceux qui venaient, y en a plein qui avaient arrêté pendant le Covid parce qu'ils avaient les jetons et puis qu'ils voulaient pas chanter dans des pièces avec des gens et ceux qui restaient ils étaient en mode rien à foutre, on a trop besoin de chanter, il faut qu'on chante et puis on brave les couvre-feux, on vient chanter. Voilà, c'était exactement le même genre de truc, quoi.
C'est pas pareil pour parmi les chants.
Ouais. Élise, chef de chœur.
Nous on est parti de la salle municipale, quoi. On est parti se réfugier ailleurs pour pas appliquer le pass sanitaire et Justin, c'est vrai qu'il a proposé ce projet en pleine crise en fait, quoi. Enfin en plein post-Covid, mais on était encore bien dans la merde, je crois, quand on a commencé de pratiquer. Et je me rappelle, on s'est eu au téléphone, il me dit « nous, on est en train de se barrer à cause du pass sanitaire, on change de salle et tout », je dis « nous, pareil ».
Disons-le en préambule, être pareil, ça n'existe pas. Donc, rester ensemble, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est être capable de construire des petits espaces publics, de plus en plus publics, au départ peut-être privés, peut-être infrapolitiques, mais qui ont vocation à se renforcer, à devenir plus nombreux, etc. Et donc, des petits espaces publics où on ait la possibilité de faire les choses autrement, de dire les choses autrement, de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'espace public dominant et qu'on peut le faire valoir. Et c'est faire exister l'alternative, en fait, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça, rester ensemble. C'est ça, l'enjeu. Voilà. Pour moi, nous, on ne travaille que pour ça. Que ce soit avec les Bulgares ou que ce soit avec les chanteurs d'Entre nous soit dit, on ne travaille que pour ça. Donc, mais c'est voilà, ça marche des fois plus facilement que d'autres, tu vois.
Justin, chef de chœur.
Bon, ça, c'est un peu mon histoire à moi, et c'est un peu l'histoire de la Zouave, c'est bien qu'on se le dise maintenant, qui a quand même été un groupe qui s'est constitué à l'occasion de la mise en place du pass sanitaire, que nous, à Joigny, avec les gens de la Zouave, on a dit « niette, on se voit quand même, et si on ne peut pas se voir, on continuera de se voir quand même ». Il s'agit pas il s'agissait pas pour nous d'en faire un étendard, ni d'anti-vax, ni d'anti-machin, juste de dire, continuons à vivre, quoi. Peut-être qu'on va mourir, d'accord, mais prenons ce risque de mourir en chantant. Ouais. C'est peut-être important quand même que vous sachiez que c'était un peu dans ce contexte-là que la Zouave a existé. Ouais, ouais. C'est un groupe tout nouveau,
ouais. Hein, ouais, ouais.
Qui a apparu aussi parce qu'il fallait qu'on expérimente des trucs sur le projet Entre nous soit dit. Donc c'est tout ce contexte-là qu'à mon avis, on entend beaucoup dans Weird Dire. Donc peut-être que si vous ressentez, comme certaines ou certains, un peu d'angoisse en écoutant Weird Dire, enfin en entendant, en chantant Weird Dire, vous comprendrez qu'il y a des strates peut-être émotionnelles un peu épaisses là-dedans.
Françoise, chef de chœur et choriste.
Quand il y a eu le pass sanitaire, j'ai contacté mes collègues pour savoir ce qu'ils faisaient. Moi, je ne voulais pas le faire, pas sanitaire. Je ne voulais pas savoir dans mes cœurs qui était vacciné ou pas. Voilà, mais tous mes collègues acceptaient que le contrôle. Voilà. Et j'étais très, très en colère. Et j'ai appelé Justin pour savoir ce qu'il faisait, lui. Et donc lui, il n'avait pas accepté le pass sanitaire non plus. Voilà. Du coup, je suis venue, je me suis un peu rapprochée de son cœur et tout ça. Je suis venue voir de près ce qu'il faisait. Ça me faisait vraiment très plaisir de les voir. Et puis après, il m'a demandé, voilà, à la rentrée, de remplacer. Voilà, l'histoire, c'est ça, moi. Hein, je suis là à cause de ce refus du pass sanitaire.
Ça fait longtemps que je le connais. Et franchement, c'est vrai que la question du Covid, là, ça s'est venu le bousculer très fortement, je pense, à l'intérieur de lui. Et je vois qu'au niveau de ses positions, il accepte des choses qu'il n'acceptait pas avant, en fait. Il accepte... de laisser une place aussi qu'il l'acceptait pas de la même façon avant. Mais c'est c'est un peu comme ça que je vois les choses. Lui a aussi grandi, entre guillemets. Enfin, il a accepté des choses nouvelles, quoi. Il a évolué quand même par rapport à tout ça. Et ben, finalement, entre nous, soit dit, la Zouave qui arrive là-dessus, ça va un peu aussi dans ce questionnement-là. Probablement, enfin, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas envie de parler pour lui non plus, quoi. Mais dans ce questionnement de dire, ben, finalement, moi en tant que chef, comment je fais, quoi. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise, toi, tu dois faire ça. J'ai pas envie qu'on vienne m'embêter dans ma liberté, en fait. Alors, finalement, moi en tant que chef, comment je me positionne? C'est un peu ça, le sujet. Je pense, enfin.
Parce que c'est ça qui fabrique de la communauté. C'est ça qu'ils nous apprennent, hein, les ouvriers paysans, c'est que ça fabrique communauté à partir du moment où chacun a sa part d'autorité dans la question.
Je pense que l'enjeu n'est pas tant de dire où tu adhères à cette chanson ou tu l'adhères pas, c'est de dire, ok, parlons-en le cas échéant, où est le point de tension et est-ce qu'on arrive quand même à trouver un lieu pour que même si tu n'adhères pas en tout point à tous les mots qui sont dits, tu comprends une dynamique commune qui fait qu'effectivement tu peux faire des concessions avec toi-même. Quand nous, on va en faire, effectivement, les chefs de chœur, ils en font tout le temps.
Le documentaire est réalisé par Marion Pori et produit par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. Toutes les prises de son ont été effectuées lors de la résidence à la Maison du Beuvray, la semaine du 14 juillet 2023. Nous remercions tous les participants.
Chrétin, Gabriel, Alain Malou, Elisabeth Rotos, Amélie Saint-Fal, Alice Nicole Duchemin, Maria Michel Fromer, Patrick Josepha Vincent, Annie Parage, Joël Renaton, Nathalie Chantal, Anne Gall, Justine Schneider, Aline Pilot, Thomas Barra, Marion Morisson, François Florent, Vincent Belin, Jean-Pierre Tavadoff, Marion, Nadja, Camille, Marie-Claude Lodet, Justine Thierry, Thierry Tournebis, Annie Seb, Francine Valdener,